Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour, bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106. Au programme aujourd'hui, les interviews de Simone Bonnet, Deluxe et Songe.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Simone Bonnet, bonsoir. Un album vient de sortir, Past, Present, Future, qui reprend une partie du long parcours musical, votre long parcours musical qui démarre à la fin des années 70. Australien, baroudeur, passé de Sydney à Melbourne, puis à Londres avant de partir pour les États-Unis, Los Angeles, un autre passage en Australie avant de venir s'installer à Détroit. Vous avez vécu à Berlin également. Aujourd'hui, vous êtes installé à nouveau en Australie. Et vous avez une maison feng shui en Thaïlande. J'ai lu dans un article de pasteurmagazine.com que c'est votre métier pour des ONG qui vous a fait voyager et que finalement la création musicale vous a accompagné, mais que vous n'avez jamais eu, vous n'avez jamais attendu en tout cas que la musique vous fasse vivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche?
I've never worked for an NGO.
All right.
I have worked in many countries.
Alors la première chose, c'est que dans l'article, ils n'ont pas bien compris en fait.
C'est pas vraiment une ONG.
C'est pas une ONG, ils travaillent pour le gouvernement, donc c'est financé par le gouvernement.
Le gouvernement australien.
En définitive, ouais. Et donc, bon voilà, donc il a beaucoup voyagé et il s'est rendu compte à un moment donné de sa vie que ne plus faire de musique, il n'avait pas fait de musique depuis un certain temps, c'était quelque chose qui lui manquait beaucoup. Et... il a eu l'occasion de rejouer parce que il y a eu la sortie de Eyes of Blue et d'un, enfin la sortie, la ressortie de Eyes of Blue et de ses deux premiers albums solo. Hein, donc c'est ça le Past, Present and Future. Mm. Et ça lui a permis de faire une tournée. Alors il a été beaucoup aidé par Mark Lanegan qui lui a permis de tourner.
Et effectivement, l'apprécie beaucoup.
Ouais, mm. Et donc c'était un défi en fait. Il voulait absolument. Il s'est rendu compte que pour que ça fonctionne, il fallait que ce soit quelque chose qui se fasse en duo, ce qui supposait qu'il joue de la guitare. Et il n'avait jamais enregistré de guitare, il n'avait jamais joué de guitare live non plus, donc c'était vraiment un défi qu'il a su relever. Et il a beaucoup appris de cette démarche-là. Et donc du coup, il y a des projets qui se bousculent. Hein. Sa partenaire va enregistrer un album bientôt, et lui aussi va enregistrer quelque chose. Et puis il voudrait idéalement faire une tournée en septembre-octobre de l'année prochaine, avec donc une prise en considération de ce qu'ils ont pu comprendre et vivre. Et donc l'approche serait un peu une approche similaire à celle de John Cale, c'est-à-dire faire intégrer quelque chose de l'ordre de l'avant-garde, de l'expérimentation dans leur musique. Et là, ce serait donc intégré à la folk, de l'expérimentation, vous voyez, des sons un peu étranges.
Voilà. Et sans attendre de vivre de la musique, justement, et voilà. Cette liberté-là permet ça.
So you want to try and earn a living with music now?
In the parlance of the day, I would like it to be one stream of income.
Donc oui, comme on dit à l'heure actuelle, il voudrait que ce soit une source de revenus. Et bon, il a plusieurs choses en fait. Hein. Il a commencé un doctorat. Et de toute façon, il va continuer son métier actuel, hein, consultant. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître.
Donc, voilà. C'est un retour aussi à la musique. Et juste, alors, puisque vous avez eu l'occasion de beaucoup voyager, quelle est la ville, quel est l'endroit qui vous semble le plus habité, imprégné par la musique, ou qui vous est le plus inspiré musicalement parlant?
That is a tricky question, and although possibly not for me now, I would say the Berlin of the 80s.
Donc la ville qui pour lui, alors il parle pas du Berlin d'aujourd'hui, hein, mais la ville qui l'a vraiment influencé, c'est le Berlin des années 80. qui était vraiment une ville artificielle, entourée du mur, et qui attirait toutes sortes de personnes de partout dans le monde. Et pour lui, ça a également été sa première expérience de collaboration avec des personnes qui jouaient dans d'autres groupes. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer avec telle personne qui venait de tel groupe, qui lui-même jouait avec d'autres personnes d'autres groupes. Donc ça, c'est une expérience très marquante. Et puis, il y a évidemment le Melbourne des années 70, qui était également un point de convergence de plein de personnes. Mais c'était aussi un lieu à partir duquel ils pouvaient observer à distance la naissance du punk de New York, notamment la scène du CBGB's qu'on connaît tous, Blondie, Television, etc. Les Ramones.
Et puis il y a ce groupe Crime and the City Solution, donc on parlait de Melbourne, groupe en Australie, mais finalement vous étiez le seul représentant de ce groupe, parce qu'il y a beaucoup de musiciens avec qui vous avez travaillé, sont formés en 77. Vous êtes finalement le seul représentant de ce groupe, on peut dire ça ou pas?
I don't think Crime could reform if I just took a bunch of musicians.
Ouais, donc il dit légalement, évidemment, il pourrait, il aurait le droit, mais pour lui c'est inconcevable de reformer le groupe avec d'autres musiciens. Les musiciens avec lesquels il a joué à l'époque, dont Mick Harvey, ont apporté tellement que ce serait pas possible de faire sans eux.
Alors effectivement, vous splittez avec ce groupe, et puis comme vous le disiez, c'est Mick Harvey qui vient vous rechercher, qui reprend le répertoire de Serge Gainsbourg maintenant, et aussi celui de Manu Chao. Il est passé par ici, il était là il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous lui devez à ce membre des Bad Seeds?
What do I owe Mick Harvey? A lot. You know, I mean,
Il lui doit énormément. Alors déjà parce que c'est quelqu'un qui est allé le rechercher à un moment qui était difficile, qui lui a payé un billet d'avion pour aller à Londres, qui lui a trouvé un contrat de disque. Et puis aussi et surtout, c'est un musicien qui sait tout faire et puis qui est extraordinaire dans son écoute. Comme Simon a une façon assez particulière de chanter, sans l'intervention de Mick et sans sa médiation, ça aurait été ça aurait été du chaos et non pas du chaos contrôlé. Hein. La façon dont ça se passe avec Mick, c'est qu'il le regardait chanter, il comprenait ce qui se passait, en tirait le meilleur et ensuite les musiciens suivaient ce que disait Mick Harvey. Donc il lui doit énormément à tous les niveaux.
Alors c'est peut-être la solidarité australienne. Toujours est-il que dans votre musique, on sent aussi peut-être un caractère encore toujours un peu australien, peut-être comme un grand mystère sauvage, l'immensité désertique, la chaleur. Mais est-ce que le passage à Nashville, quand même, au début des années 90, est-ce qu'il est fondateur de quelque chose, puisque vous êtes aussi passé par Nashville, vous avez enregistré aussi là-bas?
Los Angeles, not Nashville.
Not Nashville. Okay.
No, I never recorded. We recorded in Austin.
Alors, c'est pas Nashville hein, qui est la ville qui leur a vraiment influencé. C'est plutôt Los Angeles qui correspond à une nouvelle période de sa vie avec un enfant. Puis c'est le moment où il a commencé vraiment à ressentir de l'intérieur la culture américaine. Et donc, il expliquait que son premier disque, c'est vraiment au sujet de ce que ça fait d'avoir un enfant, de devenir papa. Et son deuxième album, en revanche, c'est à propos d'un. C'est la base, hein, c'est un road trip. Il explique que sa compagne était enceinte et ils faisaient leur tournée dans une petite Volvo et que du coup il a eu des contacts avec les gens, avec l'Amérique profonde. Et cette fameuse chanson Everyman, qui a été écrite au milieu des années 90, elle part justement de ça, de ce besoin, cette nécessité d'avoir un sentiment d'appartenance, ce besoin de se sentir qu'on a une place dans son pays. Et voilà, il disait que beaucoup des problèmes politiques qu'on peut avoir à l'heure actuelle, notamment aux États-Unis, sont liés à cette anxiété, cette peur que les citoyens lambda, everyman, hein, peuvent ressentir face aux changements économiques qui génèrent du chômage. Et donc voilà, il a essayé de se positionner un peu comme Lou Reed a pu le faire, c'est-à-dire en observateur qui ne propose absolument aucun jugement, ne pose aucun jugement sur ce qu'il voit. C'était l'esprit.
Très bien. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question par rapport à cet album qui vient de sortir. On l'a dit, avec Eyes of Blue, avec notamment Everyman, mais contracté, puisque Everyman de l'album, Everyman, il y a plusieurs chansons Everyman, et puis là, elle est contractée en une seule dans ce disque. Mais à la base de notamment Eyes of Blue, il y a un album fantôme, une sorte d'album fantôme, celui enregistré à Détroit. Il y a une histoire autour de cet album-là ou pas?
Oh, Detroit, that's a very tight relationship.
Après avoir enregistré Everyman, qui était vraiment un énorme projet, qui était fait avec une major, il voulait revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Il voulait enregistrer avec des amis. Et donc voilà, ces titres-là de cet album Fantôme sont des titres qui ont été financés en partie par un petit label indépendant pour 4 de ces titres. D'autres titres étaient sur des films. Il y avait aussi des démos pour sa boîte d'édition. Et bon voilà, ces titres-là, c'était très compliqué de les sortir parce que ça correspondait à un moment où l'industrie du disque a commencé à rencontrer des difficultés. Il avait des enfants en bas âge et donc il n'était pas question de chercher à vivre de la musique. Il fallait que financièrement, il y ait une situation qui soit stable et viable. Et donc, grâce à Mute et grâce à ce nouvel album, il a pu sortir les 3/4 des titres.
Past, present, future, Simon Bonnet. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir
été avec nous. world away. I'll miss you.
Depuis 2007, Deluxe, groupe phare de l'électropop française originaire d'Aix-en-Provence, nous régale avec sa fantaisie, sa pêche et son style aux accents hip-hop, soul, funk et jazz. Et trois ans après la sortie de leur dernier album Statchelight et après plus de 500 dates en France et partout dans le monde, Deluxe revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel album sorti au printemps 2019, Boys and Girls. On va donc découvrir de nouveaux costumes, voilà, encore plus déjantés, plus colorés, plus brillants, une nouvelle scénographie, je vais y arriver. Et puis, évidemment, on retrouvera l'emblématique moustache, parce que la moustache, c'est sacré. Nous accueillons donc Deluxe, vous l'avez compris. Bonsoir à tous.
Salut.
Ils sont venus en force. Une des particularités de Deluxe, c'est que vous avez fait vos débuts à Aix-en-Provence, on le disait, et notamment dans la rue avec des reprises. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ces moments-là, de jouer dans la rue, de ces moments de, voilà, où il faut aller chercher le public, voilà, c'est autre chose qu'un concert où le public est captif, il faut vraiment aller le chercher, lui donner envie de rester. J'imagine qu'il en reste quand même des choses aujourd'hui, et du coup, quoi ?
Bah, c'est toujours la même chose pour nous. Que ça soit dans la rue devant 5 personnes ou ce soir au 106 devant 1200 personnes, c'est exactement la même chose. On va les chercher, on va les faire taper des mains, les faire chanter. Et en fait, c'est comme un jeu de ping-pong. Plus les gens donnent, plus on a envie de donner. Et en fait, c'est une mayonnaise qui ne s'arrête jamais de monter.
Rien n'est jamais acquis, il faut toujours aller les chercher, même si la salle est complète et qu'ils viennent pour nous.
À cette époque-là, quand vous jouiez dans la rue, vous jouiez quoi ?
On jouait pas mal de reprises de jazz qu'on mettait un petit peu à notre sauce, c'est-à-dire qu'on accélérait le BPM et qu'on jouait super fort. Et on jouait aussi pas mal de M, mais tout ça mélangé avec des compos de nous. Avant qu'il y ait Lily, s'il n'y avait pas trop de paroles, on était plutôt dans l'acide un peu énervé jazz. Et après, on a commencé, quand il y avait Lily, on mettait quand même nos compos au milieu.
Justement, pour les garder captifs, un peu ce public, vous disiez, bon, c'est un peu la même chose quand on joue au 106 à Rouen. Bon, là, les gens, ils sont venus pour vous voir aussi, donc je pense que c'est un poil différent. Est-ce qu'il y avait une formule, une technique pour que, vous disiez, augmenter le BPM, notamment sur des morceaux qui n'étaient pas forcément les vôtres, jouer vite, accrocher le truc. Est-ce qu'il y a une technique comme ça, notamment en rue, pour capter les gens ?
Il n'y a pas vraiment de technique. Je pense que les gens, c'est même pareil en salle. C'est pour ça que c'est important de dire que ça se ressemble vachement. Si les gens voient que tu prends du plaisir et que c'est pas surjoué, qu'en fait vraiment tu prends du plaisir, et ce qui est le cas tous les soirs parce qu'on arrive à prendre du plaisir tous les soirs, en fait ça se fait assez naturellement. Après oui, on va chercher le public, on a des petites phrases catchy, mais en fait c'est jamais les mêmes. C'est juste l'intention que tu donnes, c'est comme du théâtre, si tu portes ta voix ou si ce qu'on se disait ou si tu te donnes, les gens peuvent pas rester de marbre face à ça, parce que le mec, comme tu as déjà dû croiser un groupe de breakdancers dans la rue, tout le monde s'arrête et regarde, et les gens ils vont chercher les gens en les faisant taper des mains, et en fait tu t'y prends au jeu parce que y a de l'énergie qui se dégage, et en fait les êtres humains ce n'est que de la passation d'énergie.
C'est ça, c'est vraiment ça. De l'énergie, et ce qui est trop cool de retrouver autant sur scène que dans la rue, c'est cette énergie et cette symbiose. Le fait qu'on joue ensemble et qu'on fait un son particulier ensemble.
Par rapport à M,
il fait grave ça aussi. Autant en acoustique avec une simple guitare qu'avec le spectacle le plus fou qu'on ait jamais vu en technique possible.
C'est clair.
C'est un alchimiste.
Ouais. C'est un alchimiste, c'est ça.
C'est vrai.
Et puis après cette époque-là qu'on vient d'évoquer, très rapidement, ça a fonctionné pour vous. Ça tient à quoi ? Que ça marche, qu'on vous retrouve ce soir, qu'on vous retrouve partout, ces albums produits, toutes ces dates qu'on évoquait dans l'intro. Comment ça se fait ? Comment on explique ? Comment vous expliquez que ça a aussi bien fonctionné pour Deluxe ?
Franchement, Et je pense que c'est une remise en question perpétuelle. Même juste avant l'interview, on était encore en réunion en train de se demander comment on pouvait améliorer, qu'est-ce qui était la réalité. Il y a des moments durs, il y a des moments cool. Là, on reprend la tournée d'automne. Là, ça a été, pendant 2 ans, on a fait une pause sur l'album. Il y a eu des super moments de doute, des moments où on s'est dit on va se planter littéralement. Mais je pense que de rester tous ensemble et d'être toujours dans la même dynamique, de dire comment on peut faire mieux, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, et de toujours rester près de notre arbre et de ne pas vouloir changer. Tu vois, il y a eu ce gros courant trap qui est là à fond. Ben voilà, à un moment, on a failli carrément céder, c'est-à-dire on va faire appel au méga mec de la trap, et au final, on a essayé de le faire nous.
Un trappeur,
ouais.
Davy Crockett.
Voilà, non, c'est plutôt de se dire bah, faire la musique qu'on aime vraiment et qui nous plaît à tous les 6. Et au final, si ça nous plaît à tous les 6, ça plaira forcément à des gens aussi.
J'ai envie de reparler de cette symbiose absolument magique de quand on joue tous les 6 ensemble. Il y a un truc spécial qui se passe. Et, qui
et fait c'est la marque.
Ouais.
C'est la marque de Deluxe.
Et il n'y a pas besoin de le commander. On le laisse faire et ensuite on voit ce que ça donne. Quoi. Mm-hmm. On laisse parler l'énergie.
Ouais.
Il y a eu aussi rapidement dans le parcours un lien avec Chinese Man qui s'est fait. Comment ça s'est fait et qu'est-ce qu'ils vous apportent ou qu'est-ce qu'ils vous ont apporté à un moment?
Je les ai abordés un jour dans la rue à Marseille en mode mais vous avez pas honte de vous appeler Chinese Man
avec ce qui se passe en Chine,
là, vous êtes pas chinois, c'est complètement raciste. Et de là, ils ont décidé de produire notre premier EP, Punching Peanuts.
Il fallait les provoquer, voilà. C'est ça quoi.
Et on a grave appris. On a appris les ficelles du métier, on a appris plein de choses.
L'intermittence,
la scène, ils nous ont permis de propulser le projet. Et puis arrivé un moment. On s'est serré la main, en se disant que Deluxe voulait autre chose et eux aussi. Et puis c'était une belle histoire qui maintenant est différente puisqu'on a monté notre structure, on a monté notre label et tout machin.
Et on a fait à leur image notre propre label.
Exactement.
Aujourd'hui, ça passe par ça. Voilà, quand on veut percer, enfin faire son truc à soi et pas dépendre des autres, ça passe forcément par là. Construire sa structure. Un groupe de musique, ça suffit pas peut-être pour se produire et arriver là où on veut.
Ça dépend du groupe de musique.
Ouais, ça dépend.
Ici, il y a des personnalités qui aiment avoir les mains dans tout.
Ouais.
Et
il y a des artistes.
C'est important d'aller au bout de ses rêves, quoi. Et si t'as envie de tout gérer, gère tout. Mm-hmm. Porte tes couilles, man.
Ouais, c'est clair.
Ouais, porte tes couilles, man.
Mais si tu veux faire que de la musique,
Oui, il y en a plein qui font que de la musique et qui cartonnent.
Tu veux pas te prendre la tête à côté de ça, tu peux faire que de la musique aussi.
Mais nous, déjà, depuis le début, sur le Combi Rabo, on pressait en sauvage nos CD. On faisait ça la nuit pour les vendre le lendemain sur le cours. Déjà, on était déjà dans cette démarche d'avoir un label, d'avoir notre propre truc. On voulait déjà tout faire, nous, en fait. Donc, ça colle, c'est la continuité, quoi.
Comment s'y s'est fait ce dernier album, là, Boys and Girls? C'est quoi un peu son histoire par rapport aux autres comment il a été écrit, composé, enregistré, réalisé?
Encore une fois, c'est une étape encore de franchie, c'est qu'il a été beaucoup plus long que les autres. Et l'idée, c'était de se dire qu'on ne repart pas en tournée, ou en tout cas, on ne dit pas qu'on repart en tournée tant qu'on n'était pas totalement satisfait. Et il y a même eu un retard de tournée parce qu'on a repoussé de 6 mois encore parce qu'on n'était pas totalement satisfait. Et ça a été très, 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 très long et fastidieux. Et on travaillait tous les jours. Jusqu'au bout d'un moment où on avait vraiment une super base qui aurait pu quasiment même sortir comme ça. C'était mixé et tout. Et puis au dernier moment, on a fait appel à Vincil, qui est un producteur de C2C. D'Alta, de Hocus Pocus, et qui a écouté l'album. Il a dit c'est mortel, je me sens, il y a quelques morceaux qui me donnent des idées. Et au final, il les a un petit peu réarrangés, remixés. Et au final, c'est vachement bien parce que ça a fait un peu une évolution sur l'album. Et voilà, c'est sorti comme ça et on est hyper fiers. Et c'était le plus fastidieux des albums qu'on ait jamais réalisé.
Ça a été quoi là concrètement le rôle de Vincil? Il a retransformé certains de vos morceaux, il a rajouté des choses quoi.
Non, en fait,
qu'est-ce qu'il a apporté?
En fait, il est hyper fort. C'est une super belle rencontre parce qu'il a pas du tout touché au morceau. Je veux dire, dans l'intégrité du morceau, c'est les mêmes voix, c'est le même morceau. Simplement, si je te faisais écouter le nôtre et le sien, c'est une direction sonore différente. Il a changé quelques pieds, quelques kicks.
C'est de l'arrangement du mix.
Il a rajouté des petits pianos. C'est très léger en fait. C'est
beaucoup de la matière en fait. Ouais, il a rajouté de la matière.
C'est très très léger. Et en fait, c'est quelque chose qui. Nous, on avait le nez dans le guidon. Et c'était vachement bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui dit non, mais le morceau il est mortel, juste moi je peux faire ci, ça, ça, et en fait à chaque fois ça marchait quoi.
C'est facile d'accepter ça quand on a voilà, quand on est un groupe, quand on est on sait où on va, on est sûr de soi et que bon, ok, ce mec là il a une certaine notoriété, enfin voilà, il est plus à, il a plus ses preuves à faire dans le milieu, mais c'est pas forcément facile voilà, intégrer ce regard là extérieur pour un groupe et se dire ok, on va écouter ce que tu as à nous proposer.
Mais là il est vraiment arrivé au bout de un an de travail déjà, donc on avait déjà beaucoup poussé notre album, on y avait déjà tout mis. Du coup, il est plus devenu comme un sauveur, nous sortir la tête du
chevalier saut, blanc,
comme un chevalier blanc. Ouais. Ouais,
puis on avait envie, nous, de faire appel pour la première fois un arrangeur au début de la formation de l'album. Donc c'est nous qui sommes allés le chercher. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt
Vincile de Hocus Pocus, Vincile de C2C. C'est aussi un de nos héros. Hein.
Ouais, c'est un peu papa. Ouais, c'est clair. Donc c'est vrai que tu lui laisses le projet en disant bon, vas-y.
On a écouté Hocus Pocus quand on était au lycée.
Ouais.
Sur cet album, on retrouve aussi pas mal de rappeurs. Il y a Nemir, Toomy, qui est S2G, il y a Oxmo Puccino aussi. Au final, vous êtes carrément hip-hop. Vous avez cette culture du featuring, quoi, où voilà, on va faire des morceaux avec un tel ou un tel.
Carrément, ouais. On est super hip-hop tous ensemble, en fait. Je pense qu'on est assez éclectique. On aime bien tous les six, écouter plein de musiques différentes, variées. Et le hip-hop, il nous met tous d'accord. Et c'est vrai que la culture du feat, on aime ça, parce que c'est s'enrichir sur de nouvelles horizons musicales, et ça nous a toujours plu.
Ça permet de faire des rencontres qu'on retrouve éventuellement sur la route, sur les tournées.
Exactement.
Pourquoi pas sur un album suivant. Voilà, ça permet ça aussi de se faire détendre son réseau.
Là, pour le coup, c'est grâce à la tournée qu'on a rencontré tous ces featurings. Si on n'avait pas tourné comme des oufs pendant des années et des années, on n'aurait pas dû jamais rencontrer nos idoles comme M, IAM,
Neka,
Oxmo Puccino, Neka, Nemir aussi.
IAM.
Donc c'est drôle parce qu'on s'est vraiment plus fait la main en tournée, des rencontres enrichissantes en tournée qu'ailleurs. En fait, on n'existe pas vraiment sur la tournée.
Donc, sors de chez toi, peut-être que tu rencontreras du monde.
Exactement.
Une des caractéristiques de Deluxe, c'est aussi ce sens de la fête. C'est quoi une fête réussie pour vous ?
C'est quoi une fête réussie pour nous ? Un bon DJ, de la bonne alcool pas chère.
Et de la boisson sucrée.
Tant qu'on danse. Une bonne soirée, c'est quand on danse vraiment plus de 10 minutes.
Mais c'est vrai qu'au final, on est devenu hyper... c'est pas des blagues. Hyper relou sur ça. Tu vois, quand on fait des soirées chez nous, on se fait souvent... Pour l'anniversaire de Lily, on avait fait ça ou machin. En fait, on est devenu les top DJ du coin, quoi. Tu vois, genre, on sait quelle musique faut mettre à ce moment-là, on est machin, et au final, nos soirées, elles sont trop cool. Hein.
On sait peut-être même quel alcool mettre à ce moment-là, c'est peut-être pour ça qu'elles sont cool.
Elles sont vraiment cool, nos soirées. Ouais.
Elles sont trop cool, nos soirées.
C'est un subtil alliage entre le son, l'ambiance, ce qu'on va boire.
Exactement. Et le concert de luxe, tu vas te rendre compte, si tu viens ce soir, c'est exactement ça. C'est le bon morceau au bon moment, l'émotion au bon moment, la fête à ce moment-là. C'est ça qui est génial.
Est-ce que ce truc-là de la fête, c'est un moyen aussi un peu de conjurer le sort, d'oublier le monde qui est parfois un peu triste ?
Écoute, ça c'est ton interprétation et c'est
carrément,
très flatteur.
J'assume.
C'est super sympa.
C'est vrai que le monde est triste, c'est vrai.
Moi je suis assez d'accord avec ça.
Et du coup, on a besoin de se lâcher un peu, d'oublier, de faire de la musique en l'occurrence en ce qui vous concerne, mais de faire la fête tout simplement pour se dire on a besoin d'être ensemble et de s'amuser et de lâcher un peu prise.
Ouais, de penser à rien pendant un moment donné, ça fait du bien. Pendant une heure, pendant deux heures, si on les fait penser à rien pendant deux heures, moi je trouve que c'est gagné. Ouais.
C'est mission accomplie.
Oublier la mort.
Ça va trop bien avec ton t-shirt.
Ça, j'aimerais trop l'imprimer sur autre chose. Ce message.
Sur un corps mort, peut-être.
Ouais, mais sur des trucs trop beaux, tu sais.
Sur une tombe.
Yes. Ah oui, c'est bien ça.
Mais avec le même dessin.
Pour conclure, on est éventuellement obligé de parler de la moustache parce que c'est un peu la marque de fabrique aussi de Deluxe. C'est quoi le secret pour la garder toujours au top, la moustache ? Je vois que, notamment les gars, vous la triturez souvent. C'est un des secrets pour avoir toujours la classe ?
Quand tu es devant le miroir et que tu te sens super con, pense au fait que tu as 5 potes qui sont...
Aussi
con
que toi.
T'es pas tout seul. Et c'est ça l'histoire de la moustache.
T'es pas tout seul.
T'es pas tout seul. C'est de la solidarité. C'est une confrérie.
D'ailleurs, on devrait se faire des coucous avec les moustachus dans la rue comme ils font les motards pour se sentir moins seul.
Un signe.
Moi, je dis que tous les moustachus, on devrait se faire.
Ou celui-là. Tu vois.
Je sais pas.
Crochet.
En tout cas, ça relance peut-être une mode, celui de la moustache.
Ouais, ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va relancer une mode.
Ça suit pas forcément. Voilà. Mais c'est parce que les gens sont pas encore forcément venus à vos concerts.
Ça vient petit à petit.
En tout cas, merci à vous, Deluxe. On vous retrouve évidemment ce soir sur la scène du 106.
Radio Lomax.
Océane, bonsoir.
Bonsoir.
Un premier EP, Songe, éponyme, en janvier 2017. Trois ans plus tard, voici donc l'album intitulé Flavorit Kala, des contes, des voyages, les morts, les âmes, les mystères et la musique avec de l'âme dedans. Flavorit Kala, Flavorit mot valise, et Kala que l'on ne connaît pas. En tout cas, moi, je ne connais pas. On entre directement, finalement, dans votre monde avec ce titre-là, j'ai l'impression. C'est le titre de l'album. Et Kala, c'est quoi? C'est votre saveur préférée, alors?
C'est Kala, c'est Colors.
C'est Colors, en fait, tout simplement. Ouais, ouais. Ah oui. Alors, on va revenir là-dessus, évidemment, puisque tout le monde parle de cette histoire de son que vous voyez en couleur dans toutes les interviews. Donc, on va forcément aborder ça. Songe qui naît à Quimper, en Bretagne. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du jour où Océane a laissé la place à Songe?
Ouais, peut-être quand j'ai déménagé, en Allemagne, je suis allée habiter à Cologne 6 mois. Et ouais, là, j'ai commencé à faire pas mal de musique électronique et tout. Et peut-être que là, il y avait des petites pointes de songe qui commençaient à sortir.
Donc en fait, vous avez commencé votre apprentissage de la musique en partie du côté de Quimper, forcément, j'imagine, en faisant de la musique avec des amis ou peut-être toute seule, je ne sais pas. Ensuite, vous êtes partie à Paris suivre des études au conservatoire, des études de chant autour d'un chant plutôt axé jazz.
Ouais.
Et ensuite, maintenant, vous faites des allers-retours entre Paris et Quimper, on va dire ça.
Ouais. En fait, je me suis rendu compte, pas que dans la musique, mais pour être heureuse, j'avais besoin de variation, de variété, enfin de diversité. Et du coup, comme j'aime, je sais pas, le hip-hop agressif et puis la pop très légère, comme j'aime, je sais pas, chanter en français, en anglais ou la Bretagne, Paris, enfin, j'aime bien comme ça pouvoir alterner sur ma palette. Là, je vais choisir et puis et aussi, je crois qu'aujourd'hui, enfin, d'après ce que disent les anciens, en fait, ils disent qu'on a le choix, en fait, maintenant de... Enfin, on peut choisir, en fait, alors qu'avant, apparemment, eux, ils n'avaient pas trop de liberté.
On était dans une tribu, et puis
ouais,
voilà, quoi.
Un peu des groupes stylistiques ou machin, et du coup, ouais, ça me plaît de varier les plaisirs.
Vous dites dans une interview pour RFI, quand j'étais petite, j'étais très intéressée par la sorcellerie. J'avais des grimoires, des potions. L'image de la sorcière, c'est aussi l'image des premières féministes, on va dire, en rébellion un peu aussi, forcément. C'est quoi votre sorcière à vous ?
Moi, ma sorcellerie, elle est très douce, en fait. Et je vis... on me demande souvent... contre quoi je me bats et tout ça, mais moi je me bats pas contre, j'harmonise avec plutôt. Donc c'est juste pour moi, c'est chercher l'harmonie entre tout ce que j'aime aussi, et un truc trop important pour moi, j'aime trop que les gens que j'aime ils s'aiment, je sais pas, c'est un truc trop important. Trouver des couleurs qui me donnent de la joie, que ce soit dans les peintures que je vais voir, ou par exemple que ma maman fait, ou que je vais voir d'autres artistes ou machin, les fringues, la musique, enfin, faut que ça soit mélangé, coloré, un peu vibrant, et je pense que c'est ça qui me donne l'énergie. Et puis aussi, ben, toutes les histoires un peu fantastiques aussi, tout ça, c'est un peu sorcier, tout ça aussi.
Vous avez une maman qui peint ?
Ouais.
C'est de là que ça vient, selon vous, cette faculté que vous avez qui revient justement ?
Non, je crois pas.
Le fait que les couleurs, enfin que les sons pour vous se matérialisent par de la couleur.
Ouais. En fait, j'avais ça déjà avant qu'elle commence à peindre. Donc, donc ça c'est la synesthésie, mais je fais un gros warning, c'est très 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 surévalué comme particularité. Des fois les gens pensent que c'est une sorte de don ou tout ça, mais en fait c'est juste de l'ordre des sensations qui sont très 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 forts, mais c'est pas genre par exemple, je peux pas calculer 42 300 fois 378 et te donner 10 chiffres après la virgule. Et voilà. C'est pas de cet ordre-là. C'est plus au niveau des sensations. À mon avis, dans le cerveau, moi, quand je fais de la musique et que je vois des couleurs, ça, à mon avis, c'est un peu dans l'endroit des souvenirs où, je sais pas, il y a quelque chose à voir avec les Madeleines de Proust et les souvenirs et puis les recoins du cerveau. Des portes qui s'ouvrent et qui se referment, et je pense que c'est quelque part par là.
Soucougnant sur les épaules de Darwin, les sages, les dieux, les planètes secrètes, une légende caribéenne, un esprit qui s'incarne dans les animaux. Vous avez ça c'est un peu aussi votre univers. Vous avez un conte, un mythe qui est fondateur dans votre histoire personnelle? Parce que c'est important pour vous, ça, les mythes, les contes.
Ouais, très, très, très important. Ben, il y en a 1000, je pense. Là, j'ai... ouais, on parlait souvent, les anciens, ils parlaient souvent de l'encou. Donc, c'est... en fait, on disait que quand on entend un cliquetic, 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 c'est en fait c'est le bruit de la charrue. Enfin, de la charrette de l'encou qui se promène dans les montagnes des Monts d'Arrée en Bretagne ou dans les chemins un peu escarpés tirés par les chevaux. Et si t'entends cliquetic-cliquetic, bah, c'est qui vient pour toi. Et l'encou, c'est une très très grande personne tout en noir avec une faux et tout le monde fait ah quand on entend l'histoire. Et voilà, mais après, dans l'album, il y a d'autres contes. Bah, Soukounian, c'est un conte des Caraïbes. Crépuscule des dieux, c'est un conte. Enfin, ça vient de la mythologie nordique, scandinave. En fait, c'est Wagner qui a repris un peu toute la enfin, une grande partie de la mythologie scandinave et il en a fait un opéra genre de 3 ou 4 jours. Et donc ouais, ça m'avait parlé. J'étais en cours de romantisme en musicologie. Mmh. Et du coup, là, on voit Wagner et là, on entend parler de cet opéra qui est complètement dingue. Et le dernier jour, il s'appelle Le Crépuscule des Dieux. Et moi, je sais pas, dans ma tête, ça m'a matrixée, en fait. Je suis restée bloquée, j'ai fait « Oh !» Mais, et du coup, je me suis un peu renseignée là-dessus. Et du coup, j'ai fait un son qui s'appelle Crépuscule des Dieux, qui est un peu une variante de l'histoire.
Vous dites que ça a ouvert des dizaines de portes dans votre cerveau, ce morceau.
Ouais.
Elles vous ont amené vers quoi, ces portes-là ? C'était quoi l'univers qu'il y avait ? Les univers qu'il y avait derrière ? C'était quoi ?
Ben... En fait, c'est un peu... Il y a beaucoup de ces univers-là qui sont dans le clip. Ouais, enfin, moi j'avais en tête vraiment une végétation luxuriante. Genre, c'est une histoire nordique normalement. Mais moi, je sais pas, je l'ai replacée ailleurs dans ma tête, je sais pas. Et il y avait plein d'énigmes. Et aussi, je sentais aussi le côté dramatique et fatalité en fait. Parce que dans le Crépuscule des Dieux, l'opéra il commence et on sait très bien que ça va mal finir en fait. C'est comme dans les trucs grecs, on sait très bien que on lui dit mais non fais pas ça sinon tu vas finir avec ta mère. Voilà. Mais on sent que ça va déraper en fait.
Finalement c'est toute l'histoire de l'humanité quoi.
Et ouais j'aime bien ce côté inéluctable. Enfin non je l'aime pas mais je le trouve très très puissant créativement en fait.
Et vous parlez aussi des anciens, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute beaucoup des anciens du côté de Quimper, vous croisez des anciens qui vous racontent des choses, qu'est-ce qu'ils vous racontent, qu'est-ce que vous prenez de ça ?
Ouais, ben apparemment pas assez, parce que tous les anciens, on trouve toujours qu'on les écoute pas assez, mais je me suis dit un truc l'autre jour. C'est quelqu'un qui m'a expliqué quelque chose. Donc en gros, j'étais allée enregistrer l'album à Montréal. Et je discutais avec des gens qui étaient restés en France. Genre un pote ou une pote, on discutait par Messenger, machin. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait bugger un peu dans la tête. Ce décalage horaire de 6 heures, ça me rendait un peu ouf parce que j'avais l'impression qu'il y avait l'Europe, en gros, qui était dans le futur et que moi, j'étais dans le passé et qu'on n'habitait pas dans la même dimension. Et du coup, ça m'a fait un peu délirer là-dessus et tout. Et je me suis dit, mais aussi bien, si ils habitent dans le futur, aussi bien si j'écris à mon pote et je lui dis, alors, quelle erreur t'as faite aujourd'hui ? Eh ben moi, ça m'empêchera de la faire à mon époque parce que moi je suis dans le passé enfin bref. Et je racontais ça à une amie, je lui demandais conseil de m'aider à démêler cette histoire là et elle m'a dit mais tu sais la seule solution là-dessus c'est juste d'écouter tes grands-parents en fait et là ton problème se résout et j'étais ok pas mal.
Donc du coup vous êtes comme ça à l'écoute des anciens.
Ouais j'écoute un peu ce qu'ils disent, bon des fois il y a d'autres donc j'en ai marre mais ouais j'écoute un peu ouais.
On va parler de musique rapidement parce qu'il faut qu'on vous laisse aller vous préparer. Pour la production vous avez fait appel à Mid de Club Cheval.
Ouais.
Vous nous parlez de ce qu'il a apporté à votre travail ?
Le soleil. Mid, c'est un individu très très timide et très chaleureux et très solaire. Et moi, je sais que dans mon EP, il y avait des morceaux qui étaient un peu tordus, un peu sinueux et tout. Et lui, c'est une boule de chaleur, boule de soleil. Et des fois, moi, je fais des instrus aussi. Et donc, je finis mon instru, je me dis qu'elle est ouf. Et je lui envoie. Et puis, alors là, elle se passe dans sa moulinette. Et encore plus ouf après. Je me dis qu'en fait, mon instru n'était pas si ouf. Enfin, bref. Il y a des instrus où j'ai fait en entier. Ouais. Genre, Carol of the Bell, j'ai fait en entier, par exemple. Et Thanatonaut, où il a participé vraiment donc, à l'arrangement et parfois en compo. Parce que, la frontière entre arrangement et compo, elle est un peu fine en fait. Voilà. Et c'était ma meilleure rencontre depuis longtemps. Ouais.
Et NKF, ingénieur du son sur les albums à succès de PNL.
Traverser les frontières, croyant que mon cœur sonnerait moins là-bas.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous rapprocher de lui aussi?
Ça, c'était vraiment notre trio pour l'album, Midway NKF. Et incroyable, on s'est rencontrés à Paris, on a commencé à bosser. Et il m'a dit, je déménage à Montréal. J'ai fait, mais on a un album à faire. Et il m'a dit, viens. Et du coup, je fais, ouais. Et j'ai suivi. Et on a fait l'album là-bas.
Et il s'est enregistré là-bas. Voilà. Peut-être pour terminer, on en parlait un petit peu. On parlait de Thanatonaut.
Ouais.
On a parlé un petit peu de la mort déjà dans cette interview.
Ouais.
Le 1er novembre, vous avez posté, il me semble, un post sur la mort aussi, sur les esprits, sur ceux qui sont partis.
Ouais.
Cette chanson, Thanatonaut, la dernière fois que j'avais vu ce mot-là, c'était un roman de Bernard Weber.
Ouais.
Vous l'avez lu?
Ouais.
Ce voyage donc vers un monde parallèle qui serait celui des morts.
Voilà, il est en fait ils sont un peu obsédés pour savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort et du coup ils mettent en fait des gens dans le coma pour les envoyer dans la mort et en espérant que les gens vont revenir et raconter. Sauf que au début, ils mettent pas les doses qu'il faut et du coup il y a plein de gens qui meurent et à la fin ils arrivent à mettre les bonnes doses et donc les gens vont dans la mort et ils reviennent raconter. Et c'est vrai que moi, ça fait vraiment très, très partie de ma vie, la mort, bizarrement. Là, cette année, un peu plus. Et en fait, c'est la première fois que ça me fait ça. Moi, j'ai toujours eu la sensation que la nouvelle année... moi, je suis une gamine, la nouvelle année, c'est septembre. C'est pas janvier, c'est septembre. On rentre des vacances, c'est septembre. Et je sais que des fois, ça peut être, pour d'autres gens aussi, c'est janvier. Mais là, cette année, je sens que ma nouvelle année, c'était le 2 novembre, en fait. 1er novembre, on pense à eux, on pense à ce qui est arrivé, on les met quelque part dans la tête ou quelque part physiquement. Mmh. Et puis, 2 novembre, page blanche, on recommence. Et je ne sais pas pourquoi cette année, j'ai senti que mon année commençait le 2 novembre.
Bon, l'année vient de commencer alors. Tout est encore possible.
Ouais.
Merci beaucoup, Songe, d'avoir répondu à ces quelques questions.
Merci.
Et puis, on vous retrouve sur la scène du 106 dans quelques instants. Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts de la semaine au 106, ça commence jeudi 14 novembre avec Talisco et le Super Omar. Le lendemain, vendredi 15 novembre, Skip the Use avec Biceps B. Et enfin, samedi 16 novembre, concert de Dubbing avec Stick Figure. À la semaine prochaine. Dans cette rue.